écoutez Europe 1, il est 22h. Tout de suite, le journal Sophie Tussaud.
Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal de la nuit à la une de l'actualité ce soir. La cérémonie des Césars, quel film succédera à 120 battements par minute? Nous serons avec Mathieu Charrier depuis la salle Pleyel à Paris dès le début de ce journal. Nouvelle mobilisation des jeunes pour le climat avec en tête de cortège Greta Thunberg, la jeune Suédoise à l'initiative du mouvement a été reçue à l'Élysée ce soir. Le salon de l'agriculture s'installe à Paris pour 9 jours. Les exposants préparent tout pour accueillir les visiteurs dès demain matin. Un concert géant à la frontière entre le Venezuela et la Colombie, un événement en faveur de l'entrée de l'aide humanitaire dans le pays. Nous retrouverons notre envoyé spécial sur place. Le football, 26e journée de Ligue 1, Strasbourg-Lille. Où en est-on, Patrick Muller?
Eh bien, c'est la 57e minute ici à la Méno et le LOSC mène 1-0 sur la pelouse de Strasbourg. Le but a été inscrit par Jonathan Ikoné à la 41e minute.
Merci Patrick Muller. On vous retrouve à la fin de ce jour. Et puis comme tous les soirs, on fera un point sur la bourse avec Claire Lemaître. Vous retrouverez l'invité éco d'Emmanuel Duteil qui reçoit ce soir Bertrand Dumazy, directeur général d'Edenred, sans oublier les unes de la presse de demain.
Europe 1.
C'est en ce moment la 44e cérémonie des Césars depuis la salle Pleyel à Paris. Les récompenses du cinéma français. Mathieu Charrier, vous êtes sur place. Vous suivez la soirée pour Europe 1 qui se déroule depuis une heure maintenant.
Oui, et pour l'instant, le grand gagnant, Sophie, c'est le film Scheherazade de Jean-Bernard Marlin qui était nommé 3 fois. Il a remporté les 3 prix. Le meilleur espoir féminin pour Kenza Fortas, le meilleur espoir masculin pour Dylan Robert et le meilleur premier film. Alors, c'est vrai que c'est rare qu'un film comme ça remporte autant de prix d'affilée. Ça raconte l'histoire d'un jeune qui, à Marseille, sort de prison et va errer un petit peu dans les quartiers populaires et rencontrer une jeune femme, une jeune prostituée qui s'appelle Scheherazade. La petite déception pour l'instant, mais je dis bien pour l'instant parce que la soirée est loin d'être terminée, c'est Le Grand Bain. Vous savez qu'il y a un des grands favoris ce soir qui est nommé 10 fois. Pour l'instant, il a loupé 3 des Césars pour lesquels il était nommé. Et puis, à l'instant, le César de la meilleure adaptation vient d'être mis au Chatouille d'Andrea Bescon. C'est un film formidable qu'on avait découvert au Festival de Cannes. Dans lequel cette femme raconte son enfance lorsqu'elle a été victime de pédophilie. Au départ, c'est un seul en scène qui est toujours d'ailleurs visible au Théâtre Antoine. Je vous conseille d'y aller. Et il vient donc de recevoir, ils sont sur scène actuellement en train de recevoir le César de la meilleure adaptation. Donc voilà, beaucoup d'ambiance ici. Cadmerade en maître de cérémonie impeccable qui nous chante du Queen, qui nous fait des petits. Qui chambre un petit peu Robert Redford. Une cérémonie qui continue et on attend évidemment Le Grand Bain jusqu'à la gare dans Liberté. Tous ces films annoncés comme favoris et qui pour l'instant n'ont pas encore de César.
Merci Mathieu Charrier, le monsieur cinéma d'Europe 1, donc Mathieu Charrier qui suit la 44e cérémonie des Césars pour Europe 1 ce soir. Les jeunes à nouveau mobilisés pour le climat, 1 millier de lycéens et d'étudiants portant des pancartes « Le futur commence ici » ont défilé aujourd'hui dans les rues de Paris pour protester contre l'inaction des gouvernements face au réchauffement climatique. En tête de cortège, l'égérie du mouvement, l'adolescente suédoise Greta Thunberg. À l'issue de la manifestation, la jeune fille de 16 ans a été reçue à l'Élysée par Emmanuel Macron avec des représentants du mouvement allemand, belge et français. Le français qui a claqué la porte de l'Élysée et car le président ne voulait pas que la rencontre soit diffusée en direct sur Facebook et il s'est exprimé à sa sortie au micro d'Europe 1.
Conclusion de tout ça, pour l'instant, on ne peut pas dialoguer avec ce gouvernement de la manière dont on le souhaite, de manière vraiment complètement transparente, sans que le gouvernement puisse faire une communication comme il le souhaite derrière, c'est-à-dire on a reçu les écolos, on marche main dans la main avec eux, ils peuvent dire tout ce qu'ils veulent. Donc nous on refuse ça. Évidemment, là, aujourd'hui, ce soir, c'est une stratégie de communication qu'ils font. Monsieur Macron a été tout à fait gentil avec tout le monde, a l'air très compréhensif, il écoutait Greta, il écoutait tout le monde. Il m'a dit, quand je suis sorti, qu'il faisait tout ce qu'il pouvait, mais que c'était compliqué, qu'on ne change pas 65 millions de personnes comme ça d'un claquement de doigts. C'est vrai, mais ça ne veut pas dire qu'il fait tout ce qu'il faut. De toute façon, on n'attend plus grand-chose de la part de ce gouvernement. On sait que sa politique, en particulier sa politique économique, est intrinsèquement anti-écologique, il ne faut pas se le cacher. En attendant, on appelle la mobilisation à se poursuivre et à même à grandir, puisque pour l'instant, le dialogue avec le gouvernement est impossible.
Le représentant du mouvement français qui se fait appeler Camille, au micro européen de Jean-Jacques Herry. Comme chaque année, la plus grande ferme de France établit ses quartiers à la porte de Versailles à Paris pour 9 jours. Le salon de l'agriculture ouvre ses portes demain. Il sera inauguré par Emmanuel Macron. Et l'heure est au dernier préparatif, Maud Descamps.
Eh bien oui, dernier préparatif, hein, vous l'entendez peut-être dernièrement, mais on finit de monter les stands, d'étaler la paille, et puis surtout les éleveurs ont passé la journée à installer leurs bêtes. Certaines ont voyagé toute la nuit, hein, comme les vaches montbéliardes de Patrick. Alors pour cet éleveur qui est un habitué du salon, eh bien il n'y a pas eu de difficultés particulières.
Donc le voyage s'est très bien passé, donc c'est vrai que la première sortie, c'est toujours un peu stressante pour la vache, un peu énervée, un peu craintive, vive. Et au fur et à mesure qu'on les sort progressivement du concours en concours, elle est comme chez elle, elle est vraiment couchée dans la paille, elle rumine.
Voilà, alors toutes les vaches ne sont pas aussi détendues que celles de Patrick. Chacun a un peu ses petites astuces, vous savez, pour déstresser ses bêtes. Pour Dominique, par exemple, eh bien, rien de tel qu'une bonne douche pour apaiser ses vaches Primolstein.
On les lave tous les jours, ça enlève la poussière et puis ça les déstresse, ça leur fait du bien. Et puis elle est contente qu'on la lave. S'occupe d'elle.
Alors je peux vous dire que les animaux ici se font bichonner. J'ai même croisé tout à l'heure une brebis de Sologne qui avait droit à une petite séance de pédicure. En tout cas, les éleveurs vont veiller jusqu'à tard ce soir pour pouvoir accueillir le public demain dès 9h.
Merci Maud Descamps, Salon de l'agriculture pour Europe 1. Et demain, vous pourrez entendre la matinale de Bernard Poiret en direct depuis la plus grande ferme de France.
Europe 1, le journal de la nuit, Sophie Tussaud.
C'est une affaire judiciaire non élucidée, vieille de 40 ans. La mort de Robert Boulin. Qu'est-il arrivé au ministre de Valéry Giscard d'Estaing, retrouvé mort en 1979 dans la forêt de Rambouillet? Beaucoup de zones d'ombre, mais l'enquête va reprendre. Un deuxième juge vient d'être nommé. Après tant d'années, la justice décide de donner plus de moyens, Pierre de Cossette.
Oui, davantage de moyens pour élucider cette énigme. Vous savez, le suicide au barbiturique. La fille de Robert Boulin n'y a jamais cru. Pour elle, son père a fait les frais d'un règlement de compte politique. Et même si le dossier a été classé en 1991, même si à deux reprises la justice a refusé de rouvrir l'enquête, eh bien Fabienne Boulin n'a jamais lâché. Pour elle, il y a trop de zones d'ombre. Elle a donc obtenu qu'un juge d'instruction reprenne l'affaire il y a 4 ans. À cette époque d'ailleurs, un ancien médecin réanimateur présent avec les pompiers de Rambouillet lors de la découverte macabre confie à la juge que la position du corps de Robert Boulin en 1979 était peu compatible avec un suicide. On avait l'impression qu'il avait été placé mort dans l'eau, se souvient-il, se souvenant notamment des traces de coups et d'éraflures. Ces déclarations, c'était donc il y a 4 ans. Mais aujourd'hui, pour la fille de Robert Boulin, l'enquête stagne. Il y a quelques mois, elle estimait qu'une bonne quinzaine de témoins n'ont jamais été entendus. Le temps passe et les témoins meurent, ajoute son avocate. Le tribunal de Versailles a entendu leur colère et aujourd'hui, on apprend qu'un second juge a donc été désigné. Ce sera une instruction collégiale, vu la gravité et la complexité de l'affaire, explique le président du tribunal.
Pierre de Cossette du service police-justice d'Europe 1. Alexandre Benalla et Vincent Crase restent en prison. Leur référé liberté pour suspendre leur détention provisoire a été rejeté aujourd'hui. Leur demande devant la cour d'appel sera maintenant examinée mardi matin. L'un des principaux chefs djihadistes au Sahel, un Algérien surnommé Yahya Abou El Amame, a été tué au Mali par les militaires français de l'opération Barkhane. Une annonce de la ministre des Armées au lendemain de celle de la mort des frères Klein en Syrie, dont l'un était la voix française du groupe État islamique en France. Toute la famille Klein était engagée auprès de Daesh. Écoutez l'analyse d'Hugo Micheron, chercheur à l'ENS, spécialiste du djihadisme.
Pour les Klein, c'est plus qu'une fratrie, c'est une famille, puisqu'ils étaient près de 30 hein, sur place. Tous les Klein sont partis de la grand-mère à la petite fille, en passant par neveu et nièce. C'est faux de croire que le djihadisme touche n'importe qui, n'importe où. Si vous voulez, il y a une présence locale d'acteurs qui localement vont être actifs pour recruter autour d'eux, dans leur entourage proche, en premier lieu. Et dès qu'ils arrivent un peu à essaimer, ils vont chercher à élargir les cercles. Donc ça, c'est important pour comprendre que le djihadisme, ce n'est pas un phénomène qui nous tombe sur le bout du nez à partir des attentats de Meira en 2012. C'est un phénomène qui s'est construit dans le temps. Et la trajectoire des frères Klein de ce point de vue-là nous montre comment des acteurs sur 15-20 ans vont penser leur militantisme dans une continuité. Ça, avec la violence qui s'est manifestée dans l'Hexagone à travers les attentats de Daesh, on en a pris conscience. Il ne faut pas croire qu'avec la mort des Klein, le djihadisme est réglé. Mais par contre, on peut, à travers leur cas, comprendre davantage ce qui s'est passé et ce qui se passe encore dans l'Hexagone, dans certains territoires.
Hugo Micheron, spécialiste du djihadisme, répondait à François Claus sur Europe 1. C'est une foule immense qui est rassemblée en ce moment à la frontière entre le Venezuela et la Colombie. Sébastien Krebs, vous êtes l'envoyé spécial d'Europe 1. Des milliers de personnes assistent au concert géant Venezuela Head Live en faveur de l'entrée humanitaire dans le pays envoyé par les États-Unis.
Oui, on est ici à la sixième heure de ce concert et plusieurs centaines de milliers de personnes probablement ont convergé ici, recouvertes de drapeaux vénézuéliens. Beaucoup ont traversé la frontière à l'aube pour être sûr d'être là, côté colombien. On est à quelques centaines de mètres du Venezuela, à l'entrée de ce pont si symbolique puisqu'il est bloqué par Nicolas Maduro pour empêcher l'entrée de l'aide humanitaire. Alors les artistes défilent, sont une trentaine. On a vu ici notamment le tube Despacito, ça danse la salsa dans la foule. De quoi se donner du courage dans ce contexte si difficile. Concert organisé par le milliardaire Richard Branson qui a ouvert le spectacle tout à l'heure. Écoutez.
Il faut sortir de l'impasse. Des gens meurent au Venezuela chaque jour par manque de médicaments. Des bébés meurent. Rassemblons-nous pour le changement, maintenant.
La seule chose que nous demandons, c'est la liberté. Et que parte cet usurpateur qui nous laisse mourir de faim. Ce concert montre que le monde entier est uni pour défendre la paix et la démocratie.
Vous entendez cette jeune femme qui est venue spécialement de Caracas. Elle a passé 24 heures sur la route. Avec ce concert et cette foule, l'espoir renaît, m'ont dit certains Vénézuéliens. Ce soir, ils vont dormir ici. Un campement est organisé dans les champs et demain, tous viendront affluer sur quatre ponts frontaliers pour faire entrer coûte que coûte l'aide humanitaire.
Merci Sébastien Krebs, envoyé spécial à Cucuta en Colombie pour Europe 1. Et parallèlement, à la frontière entre le Venezuela et le Brésil, deux personnes sont mortes, 15 autres blessées alors qu'elles tentaient d'empêcher des militaires de bloquer une route pour l'entrée de l'aide humanitaire. À Alger, alors que les manifestations y sont interdites depuis 18 ans, des centaines de personnes sont descendues aujourd'hui dans les rues pour protester contre la candidature du président sortant Abdelaziz Bouteflika pour un cinquième mandat.
Je ne pouvais pas ne pas venir. Incontestablement, les Algériens en ont marre de cette situation, en ont marre de la gabégie, en ont marre du vol. Ils ne veulent pas laisser passer ce cinquième mandat. Je pense que maintenant c'est clair. Ils veulent que les choses changent et ils veulent de manière pacifiquement. Le pouvoir a oublié qu'aujourd'hui il y avait Internet.
On est là aujourd'hui parce que moi je pense qu'il est grand temps qu'on mette terme à un pouvoir qui nous méprise. Ce que vous voyez là aujourd'hui, c'est le cri d'un peuple qui veut renouer avec sa dignité.
Je suis là pour que cette jeunesse puisse prendre part au changement et prendre part aussi à la concrétisation d'un meilleur avenir.
Des témoignages recueillis pour Europe 1 par Khaled Drareni. En fin de journée, des heurts ont éclaté à Alger. La police a tenté d'empêcher des manifestants de rejoindre la présidence. Elle a tiré des grenades lacrymogènes et a essuyé en retour des jets de pierre. On passe au football, 26e journée de Ligue 1 et on retrouve Patrick Muller à Strasbourg pour Europe 1. Strasbourg qui reçoit Lille.
Et Strasbourg qui vient tout simplement d'égaliser. C'était il y a deux petites minutes de cela. Le score est désormais de 1 partout entre les deux équipes. C'est Anthony Gonçalves sur le côté droit qui s'est faufilé dans la surface de réparation et puis dans le petit rectangle et qui est venu battre d'une frappe croisée le portier lillois Mike Maignan. Le LOSC qui avait pourtant ouvert la marque en première période par l'intermédiaire de Ikoné à la 41e minute et qui a eu davantage de situations et davantage d'occasions sur la globalité du match. Mais Strasbourg, en mettant du cœur et de la détermination sur cette deuxième période, est en train de trouver des solutions. Le score donc est désormais de 1 partout entre Strasbourg et le LOSC qui est tout simplement deuxième au classement. 70 minutes de jeu ici à la Méno.
Merci Patrick Muller à Strasbourg pour Europe 1. Autre résultat, tout à l'heure Saint-Etienne a battu Dijon 1-0. Le temps de demain, très belle journée avec encore beaucoup de soleil et de douceur, Valérie Darmon.
Tout à fait Sophie, les conditions anticycloniques sont au beau fixe toute la journée de demain, passées tout de même les plaques de grisailles matinales associées à quelques brouillards locaux, notamment des Hauts-de-France, à la Bretagne, à l'ouest du bassin parisien, au centre jusqu'en région lyonnaise et au Val-de-Saône. Ailleurs, le soleil sera radieux du matin jusqu'au soir. Et puis dans le sud-est, le ciel qui va s'ennuager un petit peu plus sur la Côte d'Azur et les Bouches-du-Rhône, en marge d'une perturbation qui remonte de l'Italie. Les températures le matin sont globalement de saison, un petit peu fraîches, des frontières de l'est à l'Auvergne avec 0 à 3 degrés, comprises entre 4 et 8 en général et 9 à 10 sur les côtes atlantiques. L'après-midi, les maximales sont en en légère baisse, un tout petit degré de moins qu'aujourd'hui. Donc elle reste évidemment supérieure au normal de saison, 3 à 7 degrés en moyenne au-dessus. Il fera donc 10 à 13 sur le Grand Est jusqu'aux Alpes, 14 à 19 ailleurs, 20 dans le sud-ouest et en basse vallée du Rhône, voire un petit peu plus même par endroit.
Merci Valérie Darmon. Europe 1. Restez avec nous à suivre dans votre journal de la nuit, La Bourse, avec Claire Lemaître et l'invité écho d'Emmanuel Duteil qui reçoit ce soir Bertrand Dumazy, directeur général d'Edenred. On se retrouve dans un très court instant.
22h, 22h30, le journal de la nuit avec Sophie Tussaud sur Europe 1.
Et on fait à présent un point bourse avec vous, Claire Lemaître de boursier.com. Bonsoir Claire.
Bonsoir Sophie.
Alors la fin de la semaine est très positive pour les marchés américains.
Wall Street se reprend ce soir. Le Dow Jones avance de 0,70%. On est à 26 032 points. Le Nasdaq enregistre lui un gain de 0,91%, 7 528 points. Du coup, les indices sont en hausse sur la semaine. On est donc sur une 9e semaine consécutive de progression des marchés américains. Ce sont une nouvelle fois les discussions commerciales entre la Chine et les États-Unis qui ont donné le tempo. Et ce soir, ça monte parce que les investisseurs ont beaucoup d'espoir après la rencontre entre Donald Trump et le négociateur en chef chinois.
Et évidemment, ces espoirs ont dopé les cours du pétrole.
Oui, le pétrole est au plus haut depuis 3 mois à New York. Le WTI avance de 0,5%, 57,26 $. Les valeurs technologiques aussi profitent des discussions entre les deux plus grandes puissances économiques mondiales. Apple gagne 1%, Microsoft plus 1,4%, Facebook plus 1,2%. Et puis, on retiendra aussi ce plongeon de Kraft Heinz, le géant de l'agroalimentaire, qui s'écroule de 27% après ses résultats trimestriels jugés décevants. Et il entraîne avec lui ses concurrents comme Kellogg. Kellogg qui est connu pour ses céréales pour le petit déjeuner, qui cède 2,5%. Et du côté des devises, l'euro est stable, on est à 1,1334 $.
Et à Paris, la semaine se termine aussi en hausse, Claire.
Oui, avec un gain de 0,38% pour le CAC 40, il termine à 5 216 $. Là encore, le bilan hebdomadaire est positif puisque le CAC a gagné 1,2% sur la semaine. Très belle séance pour le titre Sopra Steria qui a bondi de 17,8%. La société de services informatiques rassure avec ses résultats 2018 et avec ses prévisions. Et puis ça monte aussi pour Edenred, plus 5,2%. Le groupe qui est connu notamment pour ses tickets restaurants a enregistré une croissance solide l'an dernier.
Et Bertrand Dumazy qui sera l'invité juste après ce point bourse d'Emmanuel Duteil pour l'invité pour l'interview écho du soir sur Europe 1. Alors Claire, il y a aussi des résultats qui ont été sanctionnés ce soir, comme par exemple ceux d'Europcar.
Le loueur de voitures a pourtant publié des résultats records, mais les analystes font la fine bouche sur les prévisions pour cette année. Du coup, l'action chute de 8%. Et parmi les résultats sanctionnés, on a aussi ceux de Saint-Gobain qui perd 1,6%, Valeo, l'équipementier automobile, en repli de 0,2%. Enfin, EDF recule de 2,8%, victime d'une note négative de Goldman Sachs. Les marchés européens affichent une petite hausse ce soir. Londres gagne 0,2%, Francfort plus 0,1%. Plus 0,1 également pour Madrid, Milan plus 0,3. Bruxelles perd tout de même 0,4%. Le CAC 40, lui, gagne 0,4% et clôture à 5 216 points.
Merci Claire Lemaître de boursier.com. Vous retrouverez la bourse lundi soir sur Europe 1. Et il est 22h19 sur Europe 1. C'est l'heure du rendez-vous écho avec Emmanuel Duteil et son invité. Emmanuel, vous recevez ce soir Bertrand Dumazy, directeur général d'Edenred.
Bonsoir Bertrand Dumazy.
Bonsoir Emmanuel Duteil.
Merci d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1. Vous êtes à la tête d'Edenred. Alors, ce n'est pas encore une entreprise obligatoirement très connue du grand public. Et pourtant, vous êtes un leader mondial. Vous êtes la maison mère des tickets restaurants et des fameuses cartes Cadeos. Vous avez présenté vos résultats ce matin. Ils sont assez exceptionnels. Alors, on ne va pas rentrer dans le détail de vos résultats financiers. Mais s'ils sont exceptionnels, c'est que vous êtes aussi en train de réussir la digitalisation du ticket restaurant. Parce qu'il y a sûrement encore beaucoup de nos auditeurs qui ont un ticket restaurant papier. La dématérialisation en France progresse très vite. Il y a un peu plus d'un an, on n'était qu'à 15% de dématérialisés, donc on a quasiment doublé. C'est quand la fin du papier en France? Vous l'avez pronostiqué, j'en suis sûr.
Alors moi, j'espère que ce sera le plus vite possible, puisque nous sommes leaders des solutions digitales dans le monde, mais aussi en France. Donc je pense que le plus vite est le mieux, et le plus vite est le mieux pour l'utilisateur. Il n'y a pas de date officielle, mais je pense, au vu de la progression de la digitalisation en France, je pense que d'ici 4 ou 5 ans, la France sera 100% digitale.
Alors, petit détail, ça vous oblige aussi à former vos personnels, parce que je pense que nos auditeurs ne le savent pas, mais vous êtes aussi un imprimeur. C'est vous qui imprimez la totalité des tickets restaurants qui sont distribués en France, sous votre marque, hein, bien entendu. Qu'est-ce qu'on fait de tous ces collaborateurs ? On les prépare à changer de métier ?
On les prépare à changer de métier. Il y en a déjà un certain nombre, puisque le volume papier dans le monde a baissé. Il y en a déjà un certain nombre qui ont intégré d'autres équipes et on continue à les former et à gérer cela au mieux. La bonne nouvelle, c'est que comme on parle d'une échéance à 4 ou 5 ans, on a vraiment le temps de s'y préparer.
En quoi la dématérialisation est plus intéressante pour moi, collaborateur qui bénéficie d'un ticket restaurant ? Parce que pour vous, on peut le comprendre, ça vous fait moins de papier imprimé, etc., etc. Mais pour moi, collaborateur ?
Alors, elle est très intéressante au moins à trois niveaux. Le premier niveau, c'est que désormais, vous ne perdez plus vos tickets restaurants puisque vous avez un compte virtuel. Donc,
grâce par ma carte, mais j'ai encore mes sous cachés quelque part.
Exactement. Vous n'avez jamais plus votre jean qui revient lavé et avec des tickets délavés dans la poche du fond. La deuxième chose, c'est que vous payez à l'euro près. C'est-à-dire qu'avec un ticket restaurant papier, parfois, on ne rendait pas la monnaie. Désormais, vous pouvez payer à l'euro près. Puis troisièmement, Emmanuel, vous méritez une solution moderne qui vous permet de payer directement en sans fil avec votre téléphone portable chez votre commerçant préféré.
Et l'idée, c'est qu'avec cette carte aussi, j'allais plutôt au restaurant du coin, c'était le but. Là, je peux aussi acheter sur des sites dématérialisés, c'est ça aussi l'intérêt ?
Alors, tout dépend de la solution de paiement dont on parle. Je rappelle que pour du ticket restaurant, vous ne pouvez acheter que de l'alimentation certains jours et pour un certain montant. En revanche, les autres solutions de paiement qu'on a, par exemple du Cadeos, quand il est dématérialisé, c'est beaucoup plus facile d'aller acheter chez des marchands qui sont online plutôt que de faire que du on-site.
Alors, on disait aussi souvent en France que le frein, c'est qu'avec une carte dématérialisée pour les tickets restaurants, on ne peut plus tricher. Et tout ce qu'on en est, on a tous eu un ticket restaurant de nos parents pour aller payer notre McDo ou notre Quick le samedi après-midi. On a tous comme ça utilisé des tickets restaurants pour acheter des choses un petit peu différentes. C'est quand même un des freins à la française, le fait de ne plus pouvoir tricher. On est des latins tout de même.
Oui, alors on est des latins, mais vous voyez, les Brésiliens sont très latins aussi et la solution ticket restaurant au Brésil est 100% digitale. Donc oui, on est latins. Oui, parfois, quelques largesses ont eu lieu. Mais en France, comme partout ailleurs, la digitalisation va l'emporter.
Est-ce que c'est aussi un élément différenciant, les entreprises qui offrent des solutions comme celle-ci de paiement pour faire venir des collaborateurs ? Plus on propose un montant élevé du ticket restaurant, est-ce que plus c'est intéressant ?
Ah oui, c'est-à-dire que cette formule qui est quand même assez incroyable, c'est-à-dire que l'employeur et l'employé se mettent d'accord pour financer le repas de l'employé. Évidemment, dans un monde où vous avez un taux de chômage qui est faible, je rappelle que dans l'ensemble du monde, le chômage est à un niveau quasiment historiquement bas. Premièrement. Deuxièmement, c'est un monde où les compétences sont en concurrence. Et donc, plus vous offrez des avantages aux salariés, plus vous êtes capable de retenir vos salariés. Et donc, le lien est absolument fort entre le nombre d'avantages que vous donnez et votre capacité de rétention. Mais il y a aussi le bien-être, c'est-à-dire qu'il a été maintes fois étudié, écrit, prouvé que si vous prenez le temps de la pause déjeuner, si vous prenez le temps d'aller marcher chez votre commerçant préféré pour aller déjeuner et revenir, vous êtes beaucoup plus productif l'après-midi que vous ne l'êtes si vous êtes resté devant votre écran. Bref, le ticket restaurant, c'est aussi du bien-être pour nous tous.
Mais comment vous expliquez que seulement 20% des salariés français aient un titre restaurant ?
Alors, c'est plutôt 25%, mais c'est l'ordre de grandeur. Parce qu'en fait, il y a d'autres formules concurrentes. L'autre formule concurrente, c'est par exemple la cantine. Mais ce qu'on note, c'est qu'on a de plus en plus de salariés qui veulent une formule universelle. J'y vais à l'heure qui me convient et je vais chercher les menus qui me conviennent.
Parce que votre grand concurrent, notamment en province, c'est d'aller déjeuner à la maison, de retourner à la maison.
Alors, il y a ça aussi. Le grand concurrent, c'est d'aller à la maison, ce qui est très bien. Moi, j'adore le faire de temps en temps. C'est rare, mais c'est quand même un grand plaisir. Puis l'autre grand concurrent, c'est que parfois, sur un site industriel, vous n'avez pas d'autre choix que d'aller à la cantine. Cependant, grâce aux nouvelles formules et sur lesquelles nous sommes leaders, c'est la capacité à commander en ligne son repas et se le faire livrer chez des gens comme Uber Eats, Deliveroo, Nestor, Kindle. Désormais, vous
ça, c'est très propre aux grandes métropoles, puisque c'est
très propre aux grandes métropoles.
3-4 plus grosses grandes villes. Après, dans certaines grosses villes de province, ce n'est pas encore totalement développé.
C'est vrai, mais c'est un développement qui est exponentiel et on est les seuls au monde à proposer cela. C'est-à-dire que désormais, vous pouvez commander votre repas sur ces plateformes de livraison et vous pouvez payer avec votre compte ticket restaurant. 75% des milléniums l'utilisent depuis qu'on l'a introduit en France. Bref, la pénétration est d'environ 25%, mais c'est une pénétration qui gagne du terrain grâce à des formules innovantes comme la livraison.
En tout cas, c'est un modèle aussi gagnant pour les restaurateurs, parce que j'ai lu que vous participiez fortement, du coup, au développement de l'économie, et notamment au fait que des petits restaurants à côté des lieux de travail arrivent à continuer à vivre et à se développer.
La statistique est radicale. Vous interrogez dans une salle de restaurant qui correspond à la gamme de tickets restaurant, c'est-à-dire pas plus de 19 euros par jour. Vous allez dans n'importe quelle salle de restaurant et vous demandez...
Je crois que le ticket moyen en France, c'est 7,50 euros, quelque chose comme ça.
Oui, c'est ça, un tout petit peu plus. Mais avec un maximum de 2 tickets par jour, donc 19 euros, vous allez dans des restaurants de cette gamme et vous interrogez les clients en disant, sans la formule ticket restaurant, titre restaurant de manière générique, est-ce que vous pourriez aller au restaurant ? 60% des gens disent non. Ça veut dire qu'il y a 60% du trafic dans un restaurant, dans la gamme ticket restaurant pour le déjeuner, qui est possible grâce à ce système.
Et donc ça va se poursuivre. Vous allez continuer de nous développer tout ça.
Ouais, non seulement ça va se poursuivre, mais je pense que ça va aller en croissance. Il y a déjà 45 pays qui ont adopté cette formule qui est d'origine française.
Certains disent que vous allez peut-être entrer au CAC 40. Quand on est patron d'un groupe comme Edenred, ça fait rêver ?
Non, la réalité, c'est que ça, c'est une conséquence du travail que nous faisons. Nous, notre ambition, c'est de continuer à développer nos formules, dont la formule ticket restaurant, mais d'autres. C'est de le faire de manière durable et de le faire très proprement, avec beaucoup d'innovation pour tous nos clients utilisateurs. Si le succès financier vient grâce à la qualité du travail que nous faisons, on est très heureux. Mais c'est une conséquence, ça n'est pas un but.
Et ben, ce sera peut-être pour nous en tout cas l'occasion de vous réinviter à ce moment-là, si ça doit se passer. Un grand merci Bertrand Dumazic, est donc le patron d'Edenred, la maison mère notamment de Ticket Restaurant, leader mondial en la matière. Et on n'en a pas tant que ça des leaders mondiaux au niveau français. Un grand merci, on se retrouve lundi sur Europe 1, 22h20.
C'était l'invité écho d'Emmanuel Duteil. Merci Emmanuel. Alors vous pouvez bien sûr réécouter cette interview sur le site d'Europe 1, europe1.fr. Restez avec nous, on jette un coup d'œil sur les titres que vous retrouverez à la une de vos journaux demain, dans quelques instants. À tout de suite. Et à la une de la presse, demain, Venezuela, l'élan pour la liberté des anti-Maduro. Peut-on lire à la une du Figaro, défiant les forces armées pour Maduro. Des dizaines de milliers de Vénézuéliens se sont portés volontaires pour acheminer l'aide humanitaire massée à la frontière colombienne. Les smartphones s'offrent un coup de jeûne. Le Figaro Économie fait un zoom sur les écrans pliables 5G. Les fabricants dévoilent leurs dernières innovations à l'occasion du grand salon de la téléphonie mobile qui se tient à Barcelone. Également dans les pages saumon du Figaro, Elisabeth Borne, la ministre des Transports, tire le bilan de la réforme ferroviaire. À la une de la Croix, demander pardon pour un autre à l'occasion du sommet sur les abus sexuels, la Croix revient sur les excuses prononcées par le pape au nom de l'humanité. Une salade découverte à table citoyen, titre Libération, alors que débute le salon de l'agriculture. Les Français sont de plus en plus nombreux à tenter de manger de façon responsable, offrant un nouveau souffle aux exploitants qui défendent une production raisonnée. Il est 22h29 sur Europe 1 et on repart à Strasbourg. On retrouve Patrick Muller. Où en est-on, Strasbourg-Lille ?
Eh bien, il reste 4 petites minutes à jouer dans le temps réglementaire. Le score est de parité, un partout entre Strasbourg et Lille, puisque le Strasbourgeois Gonçalves, à la 67e minute, a répondu au Lillois Iconé à la 41e minute. Mais on a vraiment un deuxième acte assez palpitant, avec dans cette première période d'abord cette domination lilloise avec sa puissance de frappe offensive. Et dans cette deuxième mi-temps, eh bien, des Alsaciens qui se battent, qui mettent de l'intensité à la récupération, qui essayent de trouver des solutions. On va suivre d'ailleurs peut-être Koné là, qui va partir balle au pied, mettre ce ballon loin devant. On ne s'est pas compris avec Motiba, l'attaquant sud-africain. Mais vraiment, fin de rencontre totalement indécise entre le deuxième Lille sur la pelouse du 9e au classement Strasbourg. Un partout, donc il reste 3 minutes à jouer dans le temps réglementaire.
Merci Patrick Muller en direct de Strasbourg pour Europe 1, 22h30.